Voilà, aujourd'hui on attaque une série de quatre cours qu'on a dit de biologie critique. Alors, si vous venez à l'université populaire de temps en temps, vous nous avez peut-être déjà vu, donc on est des biologistes, mais en fait on ne parle pas toujours de biologie, on parle souvent de science en général et surtout des rapports entre la science et la société. Et là, cette année, ce qui nous a plu dans Pouvoir et Contestation, c'est plus pouvoir en fait, un petit peu contestation, mais et donc on est parti sur un thème dont je vous laisse deviner, dont je vous laisserai deviner ce qu'il était. On va parler aujourd'hui de la science soumise. La semaine prochaine, ça sera la science dominatrice. La troisième semaine, ce sera posture et imposture. Et la quatrième semaine, ça s'appellera Sois Nobel et tais-toi. Donc aujourd'hui, la science soumise, donc c'est toujours un type de relation de la science au pouvoir. Le programme a été établi, je dirais, il y a à peu près 30 secondes exactement, parce que c'était pas tout à fait sûr que j'allais venir aujourd'hui, donc j'avais préparé quelque chose, mais finalement Eric a préparé quelque chose aussi, et du coup c'est probablement Eric qui va parler toute la séance, et ça va parler de d'eugénisme et de nazisme et des sciences et du comportement des scientifiques dans ces du comportement de des scientifiques vis-à-vis de ça. La semaine prochaine, on parlera donc de la science dominatrice, on parlera un petit peu de la sociobiologie, de la science et de la science du pouvoir, en fait, quand la biologie dit quelque chose sur les relations de pouvoir et comment elles s'établissent dans les sociétés. Et puis, la question de la science au pouvoir, les scientifiques qui se voudraient au pouvoir et qui aimeraient bien avoir le pouvoir. Ensuite, pour posture et imposture, ça sera peut-être un peu plus léger, mais en même temps, vous verrez que ça sonnera pas mal de cloches des débats scientifiques ou plutôt sociétés qui se passent dans la société à propos des sciences et notamment des scientifiques qui se mettent dans une posture à la Galilée et puis qui en profitent pour essayer de défendre des positions qui sont finalement pas très défendables et puis aussi un peu la relation enfin, ces scientifiques qui prennent des positions pour défendre une pensée dominante ou un conservatisme. Et puis donc, la dernière séance, Sois Nobel et tais-toi. En fait, au début, on voulait l'appeler les prix Nobel sont des cons comme les autres. Mais finalement, on s'est dit que dans les titres, si jamais c'était diffusé, il fallait peut-être pas trop faire ça. Mais on vous parlera des prix Nobel un petit peu, et surtout vous parler. Je suis sûr que vous avez des exemples de prix Nobel qui se mettent à parler de sujets dans lesquels ils sont complètement ignorants et qui en profitent pour dire tout un tas de bêtises, y compris des dérives politiques. Et voilà, ce sera grosso modo là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est surtout Eric qui va parler, donc moi j'ai fait mon travail et je vais faire la petite.
Voilà, et alors tu as oublié de dire que tu t'appelais Vincent Daubin, moi Eric Tanier, qu'on était tous les deux chercheurs dans un laboratoire de biologie à la DOI, et puis qu'on avait une troisième comparse qui a été écrite dans le programme.
C'est vrai.
Mais qu'elle est empêchée. Alors, le credo des cours qu'on fait depuis 4 ans maintenant à l'Université Populaire, C'est ce qu'on appelle biologie critique cette année, et c'est une discipline qu'on a inventée parce que c'est pas tellement de la biologie, enfin en tout cas pas que. C'est pas tellement de l'histoire non plus, en tout cas pas que. C'est pas tellement de l'épistémologie non plus, un petit peu, mais pas que. Donc voilà. Le credo, c'est d'avoir un regard critique sur la science, et en particulier sa prétention à l'objectivité et à la neutralité. Bon, d'ailleurs, on lui demande pas toujours d'être neutre et objective à la science. La plupart du temps, on lui demande de servir à quelque chose, parce que la science est payée par les citoyens, par les impôts. On est nombreux chercheurs à être fonctionnaires et à être payés par les contribuables. Et comme la Déclaration des droits de l'homme dit que tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique et de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement, la durée, ça s'applique aussi à la recherche scientifique. Donc, les citoyens ont le droit d'aller constater l'avancée de la science et savoir ce qu'ils en retirent. Donc, assez souvent, on lui demande de servir à quelque chose et de rendre des comptes à la science. Et servir à quoi ? Servir à améliorer la vie des gens, à créer des nouveaux emplois, à faire de l'innovation pour créer des nouvelles entreprises, des nouvelles technologies, à soigner, à trouver des alternatives au pétrole, des choses qui ne rejettent pas de CO2. Alors, je suppose que sur ce fait que la science doit servir à quelque chose, vous serez tous d'accord. Et c'est quelque chose qui ne date pas d'hier, de cette demande à la science de rendre des comptes, de savoir à quoi elle sert. C'est quelque chose qui se voit, par exemple, dans les demandes de subventions qu'on fait. On donne toujours une application à ce qu'on fait, même si on fait de la recherche très fondamentale. On fait ça souvent, de dire d'abord, on va essayer de soigner des maladies, et puis finalement on s'attaque à un problème très très particulier, et puis qui a peut-être un lien très lâche avec la maladie dont on se vantait qu'on savait la soigner. Alors c'est quelque chose qui date pas d'hier. Les scientifiques ont toujours fait ça quand ils demandaient des subventions. Par exemple, Bruno Latour, dans un de ses livres, cite une lettre de Pasteur. Ça vaut le coup de la citer parce que elle est pas très longue et c'est le prototype de la demande de subvention de la science. Alors Pasteur, avant qu'il soit connu, reconnu et qu'il devienne le bienfaiteur de l'humanité qu'il a été en découvrant les microbes, leur fonctionnement et les moyens de s'en protéger, voulait étudier la fermentation alcoolique. Et pour ça, il avait besoin d'argent pour faire ses études. Il avait besoin de 2500 francs. Et il écrit à un ministre, la lettre suivante. Le vin constitue l'une des plus grandes richesses agricoles de la France. La valeur de ce produit de notre sol s'est accrue par le traité de commerce avec l'Angleterre. Aussi, de toutes parts dans les contrées viticoles, on se préoccupe d'améliorations ultérieures dans l'espoir d'augmenter le nombre et la qualité des vins qui peuvent être exportés avec profit. Voilà, ça, c'est l'exportation du vin et le commerce extérieur. Malheureusement, nos connaissances en ce qui concerne cette précieuse boisson laissent beaucoup à désirer. Les études sur sa composition sont tellement incomplètes que deux de ses principes essentiels, la glycérine et l'acide succinique, sont connus depuis 2 ans seulement, et malgré les progrès de la chimie moderne, on ne saurait indiquer un traité sur les vins plus savant et plus exact que celui que nous devons à Chaptal, lequel apparut il y a plus de 60 ans. C'est dire assez tout ce qu'il reste à faire. Je me livre depuis 5 ans à des études sur les fermentations. La fermentation alcoolique sur laquelle repose toute la fabrication des vins m'a occupé particulièrement. Or, le progrès même de mes recherches me conduit à désirer les poursuivre par l'examen sur place et dans des contrées classiques, de la production des vins les plus estimés de la France, des procédés de la fermentation et notamment du végétal microscopique qui est l'unique cause de ce grand et mystérieux phénomène. J'ai l'intention de consacrer à ce travail mes prochaines vacances. Ce serait 6 semaines environ de voyage et d'études avec une aide et quelques appareils et produits chimiques indispensables. J'en évalue la dépense à 2500 francs. Le but de cette lettre est de soumettre à votre excellence l'appréciabilité de l'utilité de mon projet ainsi que la demande d'une allocation qui couvrirait les frais de son exécution. Je ne me bornerai pas à cette première série de travaux, je les poursuivrai les années suivantes, aux mêmes époques, dans la même direction. Du reste, dans la même direction, voilà. Et le dernier paragraphe, c'est « Du reste, je suis le premier à ne pas avoir d'illusions sur les conséquences immédiates de mes études. L'application aux arts industriels des résultats de la science est toujours lente à se produire. » Mes prétentions actuelles sont très modestes. Je veux arriver à mieux connaître la plante cryptogamique qui seule est la cause de la fermentation du jus de raisin. Alors, voilà, il y a les cinq premiers, au moins le premier paragraphe et puis les suivants dans lequel Pasteur promet d'améliorer le commerce extérieur de la France. Et puis dans le dernier, il fait une espèce de retournement en disant « Attention, c'est 2500 francs, je ne suis pas sûr que vous les retrouvez dans le commerce extérieur. Moi, je fais de la recherche fondamentale. » Et c'est assez significatif de ce rapport entre la politique et la science, une espèce de jeu de dupes, une hypocrisie dans laquelle les deux sont un petit peu au courant de l'hypocrisie qui consiste à dire « Bon, ben moi, je fais mes recherches. » Et j'avance des raisons pour ça, et puis l'autre qui dit bon ben je sais bien qu'il faut faire fonctionner la science, et puis que on sait pas très bien ce que ça va donner, mais d'habitude c'est un investissement rentable. Alors c'est un petit peu une tromperie parce que Pasteur s'intéresse pas vraiment à la balance commerciale de la France, mais bon. Au 19e et aujourd'hui, c'est pareil, la connaissance pour la connaissance, ça n'intéresse pas spécialement les politiques et on est tenu de mettre ce genre de premier paragraphe. Alors, tout ça pour dire que les scientifiques sont à la recherche d'applications de leur science, même quand ils font de la recherche fondamentale, et se livrent parfois à des contorsions qui peuvent... dans certains cas, se retourner contre la société. Et je vais vous en raconter quelques exemples. Qui datent du 19e siècle, pour l'instant. Alors, un exemple qui date du 19e, et puis un exemple qui date du 20e. Alors, le premier exemple, c'est les recherches en biométrie, en génétique et en évolution, qui ont commencé au 19e siècle... et qui ont pour but de mieux comprendre le fonctionnement des gènes, leur évolution et leur contribution au fonctionnement de l'organisme. La biométrie, ça a plusieurs sens, ça a un sens scientifique et puis un sens plus popularisé. Ça consiste, dans les laboratoires en tout cas, à quantifier des phénomènes biologiques. C'est une définition assez large. Et puis, c'est l'application de ça, c'est de mesurer des caractéristiques du corps humain à des fins d'identification. Mais la discipline biométrie, ça dépasse de loin ça, c'est les mathématiques appliquées à la biologie. Et alors, la biométrie, la génétique et l'évolution sont nées au 19e siècle. Et c'est l'époque de l'essor des statistiques, c'est l'époque où les scientifiques se mettent à tout quantifier, à tout compter, et où les sciences se mettent à être des vraies sciences, les sciences naturelles se mettent à être des sciences mathématisées. Par exemple, les scientifiques commencent à démontrer par des statistiques l'effet morbide des zones marécageuses et proposent leurs statistiques aux politiques pour leur dire il faut assécher les marécages. Par exemple aussi, ils inventent le quotient intellectuel qui sert alors à quantifier la façon dont répondent les gens à certaines questions de logique. Et puis, Et puis, comme application, ça donne des choses pas toujours très recommandables, comme le classement des gens en gens intelligents et gens moins intelligents. Ce qui n'était pas le but au départ. Le but au départ du quotient intellectuel, c'était de détecter dans les classes les élèves qui avaient besoin d'un petit peu plus d'aide, ceux qui étaient en retard et qui auraient besoin de cours supplémentaires pour rattraper leur retard. Mais le but a été complètement dévoyé en cette espèce de classification. C'est cette classification qu'on a pensé être un reflet d'une intelligence héréditaire et qui a servi à des buts beaucoup moins louables que ceux d'améliorer les performances des élèves qui s'en sortaient moins bien. En plus des statistiques, au XIXe siècle naît la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, les prémices ont commencé au XVIIIe et puis les vraies théories de l'évolution sont sorties au début du XIXe siècle. La première, c'est sans doute la théorie de Lamarck, mais c'est une théorie qui intéressait pas grand monde à l'époque. Elle a pas passé les cercles scientifiques et même dans les cercles scientifiques, elle a pas passé le cercle des spécialistes. Il y a eu des débats de spécialistes et c'est possible que une des raisons, pas la seule, parce que c'était aussi une théorie qui était en grande partie erronée, mais une des raisons, c'était que cette théorie-là n'a pas trouvé vraiment d'application. On ne savait pas trop à quoi pouvait servir le fait de chercher sur l'évolution. Ça a changé quand Darwin a publié sa théorie de l'évolution, qui est la théorie toujours acceptée de nos jours. Donc qui est une théorie nettement moins fausse que celle de Lamarck, et cette théorie invoque la sélection naturelle pour expliquer l'évolution des espèces. Alors un bref rappel, c'est la sélection naturelle, ça consiste à, parmi les variations qui peuvent exister dans une population d'êtres vivants, si ces variations sont héréditaires et que une de ces variations-là provoque un avantage pour la reproduction du porteur de ce caractère. Si un des caractères variables dans la population fournit un avantage reproducteur à son porteur, alors le porteur aura plus de descendants que les autres qui ont d'autres caractères. Et comme la variation est héréditaire, les descendants seront porteurs aussi de ce caractère. Et comme il y en a plus, le caractère va augmenter en fréquence dans la population. Et si petit à petit ce caractère augmente en fréquence dans la population, il finit par envahir la population, et de cette façon, le groupe évolue. Donc si on a une apparition d'un nouveau caractère qui donne un avantage reproducteur à son porteur, il a des chances d'envahir la population, et la population va évoluer de cette façon-là. Alors, c'est quelque chose qui marche très bien, qui explique assez bien l'adaptation des espèces à leur environnement. Mais c'est quelque chose qui intéressait aussi beaucoup les scientifiques et les politiques au XIXe siècle, parce que là, il y a une application. Et l'application, elle a été trouvée assez vite, c'est d'appeler ce principe, la sélection naturelle, là, la sélection des plus aptes, ou la survie du plus fort, ou alors la lutte pour la vie, ou tout ce genre de métaphores qui font que on justifie la domination d'un groupe dans une société par une loi naturelle. Et ça, il y a beaucoup de scientifiques et de politiques qui se sont emparés de cette nouvelle loi pour justifier la domination de certains au détriment d'autres. La première fois que ça s'est vu en France, c'est dans la première traduction de l'Origine des espèces. Et cette traduction, elle est due à Clémence Royer, qui est une figure du féminisme du XIXe siècle, qui est une femme progressiste, adepte de la libre pensée, qui est une intellectuelle assez connue, qui avait écrit des livres sur plusieurs sujets, sur l'économie politique, sur l'histoire, sur la préhistoire, et qui s'est emparée de la traduction du livre L'origine des espèces. En plus d'être progressiste, elle était raciste, comme pas mal de monde au XIXe siècle. Par contre, elle était plutôt anti-esclavagiste, mais persuadée quand même que les races étaient inégales et que dans les groupes sociaux, il y avait aussi des sous-groupes inégaux. Et elle écrit une préface en particulier à L'origine des espèces, dans laquelle on peut lire la loi de sélection naturelle appliquée à l'humanité. Alors déjà, voilà, elle commence en appliquant la loi de sélection naturelle à l'humanité, ce qu'avait pas fait Darwin dans L'origine des espèces, ce qu'il fera beaucoup plus tard dans un livre 25 ans après, mais dans la préface de L'origine des espèces, elle s'empresse de l'appliquer à l'humanité, c'est plus facile pour trouver des applications. Fait voir avec surprise, avec douleur, combien jusqu'ici ont été fausses nos lois politiques et civiles, de même que notre morale religieuse. Alors voilà, déjà il y a une application assez large. Ça va influencer les lois politiques et civiles et la morale. Il suffit d'en faire ressortir ici l'un des moindres vices. Les vices, c'est les vices de la morale religieuse, cité juste avant. Parce que Clémence Royer, c'est aussi une anticléricale convaincue. C'est l'exagération de cette pitié, de cette charité, de cette fraternité, où notre ère chrétienne a toujours cherché l'idéal de la vertu sociale. C'est l'exagération du dévouement lui-même, quand il consiste à sacrifier toujours et en tout ce qui est fort à ce qui est faible, les bons aux mauvais, les êtres bien doués d'esprit et de corps aux êtres vicieux et malingres. Que résiste-t-il de cette protection exclusive et inintelligente accordée aux faibles, aux infirmes, aux incurables, aux méchants eux-mêmes, à tous les disgraciés de la nature? C'est que ces maux dont ils sont atteints tendent à se perpétuer et à se multiplier indéfiniment, c'est que le mal augmente au lieu de diminuer et qu'il tend à s'accroître aux dépens du bien. Alors, vous avez vu le glissement qui fait que de la sélection naturelle, on conclut que tout ce qui consiste à aider un groupe défavorisé, ça a pour résultat d'augmenter la taille de ce groupe, puisque on va contre la sélection naturelle. En fait, la sélection naturelle favorise le fort au détriment du faible, et si on se met à aider le faible, c'est le faible qui va se multiplier, et du coup, en aidant les pauvres, on va multiplier la pauvreté. Les lois sociales vont avoir l'effet inverse de leur but. Ça va, au lieu de diminuer la pauvreté, ça va l'augmenter. Et c'est quelque chose qui va être largement récupéré par les politiques qui trouvent que c'est une aubaine, ça, d'avoir des scientifiques qui établissent comme loi naturelle qu'il ne faut pas aider les pauvres. Ça, c'est extraordinaire. Les conservateurs ne pouvaient pas rêver mieux que d'asseoir leur politique sur une loi naturelle. D'autant plus que les liens entre la science et la politique sont toujours assez étroits. Par exemple, Darwin disait lui-même qu'il s'était inspiré de Malthus pour trouver la loi de la sélection naturelle, et Malthus, c'était un conservateur qui avait exactement ce discours-là, qui disait la croissance de la population peut être exponentielle parce que si un individu a en moyenne deux descendants, alors ces deux descendants auront chacun deux descendants, et à chaque fois, à chaque génération, la population va être multipliée par deux. C'est une croissance exponentielle, tandis que les ressources, on ne peut pas attendre des ressources qu'elles aient une croissance exponentielle. Elles peuvent avoir une croissance seulement arithmétique. Il arrive toujours un point où la croissance de la population est plus forte que la croissance des ressources, et donc toute la population ne peut pas survivre. En conséquence, il faut éviter de laisser faire la croissance de la population, et il faut la réguler, et en particulier, il faut surtout pas aider les pauvres qui vont avoir tendance à augmenter cette population. Et c'est Alors, Darwin s'est inspiré de ce texte parce que cette idée de croissance exponentielle de la population face à une croissance arithmétique des ressources, c'est ça qui lui a fait donner l'idée que ça pouvait servir à l'évolution des espèces. En tout cas, ça pouvait être une cause de l'évolution des espèces. Si tous les individus d'une espèce ne peuvent pas survivre, ceux qui vont survivre, c'est ceux qui ont les meilleurs avantages reproducteurs. Et de là, les caractères qui donnent ces avantages reproducteurs pourront se répandre dans la population et faire évoluer l'espèce. Donc, le processus de cette idée-là amène à une des plus grandes idées de la biologie qui est toujours utilisée aujourd'hui. Donc le but, c'est certainement pas d'attaquer cette idée-là, l'idée de Darwin, d'autant plus que Darwin était quasiment étranger à toutes les applications qui ont été trouvées après. Mais c'est pour dire que l'idée scientifique peut être inspirée par un traité politique conservateur et être récupérée ensuite par les mêmes conservateurs pour dire, regardez, c'est une loi naturelle et il est inutile d'aller contre les lois naturelles en ayant un programme d'aide sociale. Il y a donc j'ai parlé de la statistique, j'ai parlé de l'évolution, j'ai un petit peu parlé de la génétique, hein, parce que à la fin du 19e siècle, il y a une autre découverte aussi qui va beaucoup arranger les conservateurs. C'est l'idée de Weismann, c'est un biologiste allemand de la fin du 19e siècle, qui a découvert ou décrété ou en tout cas, bon, on peut dire les deux, que les caractères acquis ne se transmettaient pas à la descendance. Pardon ? Ne se transmettaient pas à la descendance. C'est-à-dire que les capacités que on peut acquérir au cours de sa vie ne vont pas influer sur la tendance de ses enfants à avoir ces mêmes capacités. C'est indépendant. Pour prouver ça, il a donné un modèle de développement où les cellules se séparent dès la conception en deux lignées. L'une qui va donner les cellules qui vont servir à construire le corps, et l'autre qui va, c'est la lignée somatique, et l'autre qui va servir, la lignée germinale, qui va être transmise à la descendance. Et les deux sont séparés, les deux ne communiquent pas. Donc, les cellules qui vont être transmises à la descendance ont une lignée séparée dès la conception, bien avant la naissance, et tout ce qui arrive au cours de la vie du fœtus, du bébé, de l'enfant, de l'adulte, n'influe pas sur cette lignée. Dans cette lignée, tout est décidé dès le début, et on est seulement dépositaire de ce patrimoine génétique qui est transmis de génération en génération, mais qu'on ne peut pas changer. On n'a pas de prise sur ce patrimoine génétique. Et ça, c'est la découverte de Weismann, qui est valable aussi, dans une certaine mesure, dans le monde vivant, et en particulier pour l'humanité. Alors, c'est une idée qui porte, ou en tout cas qui peut porter, c'est pas obligatoire de la voir comme ça, mais elle peut porter un certain déterminisme, parce que on ne peut pas changer le patrimoine génétique de sa descendance. Alors, ça ne change rien au fait qu'on peut transmettre autre chose que son patrimoine génétique, mais en tout cas, on est dépositaire d'un certain patrimoine génétique, et on a, en tout cas au 19e siècle, on n'avait pas trop de prise là-dessus, sauf si on se met à faire de la sélection. Alors, la seule façon de changer ce patrimoine génétique de l'humanité, c'est de repérer les gènes dont dont on a envie qu'ils survivent, de repérer les gènes dont on a envie de se débarrasser, et puis de faire de la sélection à l'échelle de l'humanité, et en favorisant la reproduction des uns au détriment des autres, et en défavorisant la reproduction des autres. Ça, c'est la grande idée de l'eugénisme. Et c'est une application directe de ces trois tendances-là de la science, les statistiques, l'évolution et la génétique, qui va emballer quasiment tous les scientifiques, tous les biologistes de la fin du 19e siècle et du début du 20e. C'est-à-dire que c'est une application vraiment trop belle pour être négligée et tous les généticiens vont, quand, par exemple, voilà, quand on fait des demandes de projets, c'est ça qu'on va mettre en avant. La génétique, l'évolution et la biométrie, ça va nous permettre d'améliorer le patrimoine génétique de l'humanité. Alors, soit de l'améliorer, soit de le conserver. Parce que il y a plusieurs tendances. Il y a des tendances progressistes qui veulent avoir un patrimoine meilleur que ce qu'il est en ce moment, par exemple, qui ne sont pas tout à fait satisfaits avec l'humanité telle qu'elle existe. Ils trouvent qu'il y a trop de conflits, qu'il y a trop de bêtises, et ils voudraient avoir une humanité plus intelligente, plus pacifique. Et pour faire ça, il faut sélectionner les individus qui sont porteurs du patrimoine génétique dont on pense qu'il est lié à l'intelligence ou à la paix, et puis les faire se reproduire entre eux pour l'humanité future. Ça peut être aussi une tendance conservatrice qui est d'avoir peur du déclin ou de la dégénérescence du patrimoine génétique. Alors ça aussi, c'est un petit peu différent. C'est des gens qui ont peur que la médecine... par exemple, s'il y a des maladies génétiques et que la médecine aide à les soigner, les porteurs des maladies génétiques, au lieu d'être éliminés par la sélection, ils vont pouvoir avoir une descendance. Et si c'est des maladies génétiques dont ils sont porteurs, leur descendance va aussi avoir cette maladie génétique. Mais ils seront soignés, donc ils pourront avoir une descendance. Et ça, ça fait très peur aux généticiens, ou en tout cas, ils font semblant d'avoir très peur de ça quand ils font leur demande de subvention. Ils disent, attention, il y a des maladies génétiques qui vont se propager à cause de la médecine. Il faut faire quelque chose, il faut empêcher ces maladies de se transmettre, sinon le patrimoine génétique va se dégrader. On va vers une humanité qui va être pleine de maladies. Et les politiques ont intérêt, à cause des progrès de la médecine, à faire des lois qui protègent ce patrimoine génétique de l'humanité. Et alors les champions de cette nouvelle science qui est l'eugénisme. Alors l'eugénisme, c'était vraiment une science au 19e et au début du 20e siècle. C'était de la génétique appliquée, en quelque sorte. Tandis que la génétique ou l'évolution était la science fondamentale, l'eugénisme, c'était son application. Alors Galton, c'est un chercheur anglais qui était un passionné de statistiques, d'évolution et de génétique à la fois, et d'autres sciences aussi. C'était un très grand scientifique, un génie assez polyvalent, et c'est lui l'inventeur de l'eugénisme. Il l'a défini comme ça. C'est la science de l'amélioration de la race, qui ne se borne nullement aux questions d'union judicieuse, mais qui, particulièrement dans le cas de l'homme, s'occupe de toutes les influences susceptibles de donner aux races les mieux douées un plus grand nombre de chances de prévaloir sur les races les moins bonnes. Alors, c'est de la science, et en même temps, il y a quelque chose qui est hautement subjectif là-dedans, c'est de savoir quelles sont les races les plus douées et les races les moins douées. Ça, c'est un jugement de valeur qui paraissait évident à beaucoup de monde à l'époque et qui est quasiment impossible à établir aujourd'hui, maintenant, suite à l'histoire de l'eugénisme. Mais c'était des idées qui étaient émises par les scientifiques, voilà, qui avaient trouvé une jolie application à leur science. Galton pouvait dire, un petit peu comme Clémence Royer, la charité doit aider le plus fort plutôt que le plus faible, ou alors nous vivons dans une sorte d'anarchie intellectuelle par manque d'esprit supérieur. Parce que lui aussi, c'était un quelqu'un qui croyait beaucoup aux esprits supérieurs et aux esprits inférieurs. Il pensait que, évidemment, la société devait être dirigée par les esprits supérieurs, et que du coup, il fallait, pour former ces esprits supérieurs-là, non pas inventer l'ENA, mais sélectionner le patrimoine génétique, tout simplement. C'était l'ENA dès la conception. Alors, il y a eu une mode, comme ça, de l'eugénisme, qui était largement partagé par, j'ai dit tous les scientifiques, mais ça dépassait les scientifiques, ça a eu du succès auprès des politiques. C'était pas simplement l'apanage de gens d'extrême droite, hein, il y avait beaucoup de gens de gauche qui croyaient à l'eugénisme, et pour des raisons progressistes, c'était pour le progrès de l'humanité. Le progrès de l'humanité, c'est quelque chose qu'on entend encore aujourd'hui dans le vocabulaire de la gauche. À l'époque, ça pouvait vouloir dire ça. Le progrès de l'humanité, c'était en partie le progrès de son patrimoine génétique. Donc, il y avait un eugénisme d'extrême droite qui était raciste, en partie celui de Galton, par exemple, mais pas forcément. L'eugénisme ne consistait pas forcément à établir des hiérarchies entre les races, mais ça pouvait être une volonté d'améliorer l'humanité tout entière. C'était à la mode dans les démocraties aussi bien que dans les totalitarismes. On a vu des applications de l'eugénisme aux États-Unis, aussi bien qu'en Allemagne. Les seuls qui sont restés hostiles à l'eugénisme, les seuls groupes sociaux qui, en dehors d'individus isolés qui sont restés hostiles à l'eugénisme, c'est l'Église catholique et l'URSS. Alors, l'Église catholique, parce qu'elle était attachée à l'égalité entre les êtres humains, et puis parce que... il y a une encyclique qui est parue en 1930 qui condamnait l'eugénisme, une encyclique du pape, et qui expliquait que on ne devait pas pouvoir punir quelqu'un qui n'avait pas commis de faute. Alors, ça peut paraître évident de nos jours, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé à l'époque. Quand, par exemple, les États se sont mis à faire de la stérilisation forcée des malades mentaux ou des gens qu'on pensait être porteurs de mauvais gènes. L'URSS, c'était parce que les communistes, assez souvent, étaient hostiles à cette idée de déterminisme et étaient contre les idées de Weizmann, par exemple, avaient décidé que les idées de Weizmann étaient fausses, avaient décidé que la génétique était fausse et que cette histoire de lignée somatique, c'était faux aussi et qu'on pouvait très bien améliorer le patrimoine génétique en transmettant les caractères acquis à la descendance. Donc, en ayant décidé qu'il y avait une possibilité de telle transmission, c'était pas l'eugénisme qui était la solution, c'était d'améliorer les individus au cours de leur vie, et cette amélioration serait transmise à la descendance. Bon, je trouve que ça marche pas du tout, mais ça les a fait résister à l'eugénisme. Il y a tout un tas de pays qui ont appliqué des lois eugénistes, les États-Unis en premier. Alors, les lois, ça peut être des interdictions de mariage pour les gens qu'on suppose être porteurs des mauvais gènes. Du coup, les interdictions de mariage, ça allait, puisque les enfants se concevaient dans le mariage, c'était quasiment une interdiction de concevoir. Ça pouvait être des stérilisations, soit volontaire, soit obligatoire. Il y a eu des programmes de stérilisation obligatoire aux États-Unis, en Suède, en Norvège, au Canada. Donc, c'était pas du tout l'apanage de totalitarisme ou de fou sanguinaire. Ça se passait dans les démocraties. Des lois de restriction d'immigration, parce que cette partie de l'eugénisme qui était raciste et qui pensait que on pouvait prouver des inégalités entre les races, avait aussi peur de la dégénérescence d'un patrimoine génétique d'une nation quand on faisait rentrer des immigrants. Donc il y a eu des restrictions à l'immigration qui se fondaient sur l'eugénisme. Alors, on n'est pas tout à fait sûr que les États, en appliquant ces lois, en promulguant ces lois, croyaient en cette histoire d'amélioration du patrimoine génétique. En tout cas, ils s'en sont largement servis comme instrument assez brutal du maintien de l'ordre vis-à-vis des délinquants, des malades mentaux et des immigrés. Et ils sont assez nombreux à avoir, à l'époque, pâti de ce genre de politique. Ouais, dernier mot sur les lois eugénistes. En France, la France n'a pas été le meilleur élève pour l'eugénisme. Peut-être parce qu'elle était de tradition un petit peu plus catholique, ça a mieux pris dans les pays protestants. Les catholiques sont moins enclins à trouver sympathique ce déterminisme que les protestants. Ça a bien pris dans les pays du Nord, ça a bien pris en Allemagne. En France, beaucoup moins. Il y a eu une seule loi eugéniste en France, qui a été inspirée par un texte de Justin Godart, qui était maire et sénateur de Lyon dans les années 30. Ah là, il y a une rue qui porte son nom, pas très loin d'ici. Et en 1932, au Sénat, puisqu'il était sénateur, il a déposé une loi qui imposait le certificat prénuptial, c'est-à-dire un certificat médical obligatoire pour pouvoir se marier. Et dans un but eugéniste, parce qu'il pensait qu'on devait délivrer ce certificat seulement aux gens pour lesquels on aurait reconnu une bonne santé, des bons gènes, et qui auraient des bons descendants. En 1932, la loi a été rejetée. Le texte a été repris 10 ans plus tard, en 1942. C'était par l'administration de Pétain. Et cette fois-ci, il a été accepté. Donc il y a eu un certificat prénuptial obligatoire en France jusqu'en 2008. Moi, je ne me suis jamais marié. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Donc, jusqu'en 2008, on a eu ce certificat prénuptial, bon, qui n'était pas forcément à visée eugéniste dans les dernières années. C'est-à-dire, c'est un certificat qui servait surtout d'information sur la santé, sur aux futurs époux, mais bon, ça restait un certificat obligatoire. Il a été aboli parce que ça coûtait trop cher à la Sécu. Parce que, évidemment, de rendre ce certificat non obligatoire, on espérait des économies. Voilà, c'est l'abolition par Jean-François Copé. C'est en Allemagne nazie que l'eugénisme a été poussé le plus loin, quand même. Alors, en Allemagne, toutes les possibilités de loi eugéniste ont été appliquées, plus certaines autres, puisque, ça vous le savez tous, ça a été jusqu'à l'extermination de ceux qu'on pensait inférieurs, les malades mentaux avant la guerre, hein, il y avait des programmes d'extermination des malades mentaux, à grande échelle sur les supposées races inférieures pendant la guerre. D'autres idées encore aussi. Alors les Allemands, les nazis au pouvoir, eux prenaient assez au sérieux ces histoires de patrimoine génétique et d'inégalité entre les races. Ça faisait pleinement partie de l'idéologie nazie. Donc c'est pour ça que ça a été vraiment les meilleurs élèves de l'eugénisme. Il y a un généticien allemand qui s'appelait Otmar von Verschuer, qui était un généticien allemand très reconnu dans la communauté internationale. C'était un spécialiste des études sur les jumeaux, mais qui avait des sympathies nazies. Alors, les sympathies nazies, pas forcément très poussées, qui étaient d'abord seulement des sympathies. Il a adhéré au parti nazi en 1940, ce qui est assez tard quand même, c'est-à-dire que c'est pas un sympathisant de la première heure. Mais donc il devait avoir des sympathies avec les idéologies quand même, puisque il a pu dire que Hitler était le premier homme d'État qui a fait des données de la biologie héréditaire et de l'eugénique un principe directeur dans la conduite de l'État. Il voyait vraiment Hitler comme la biologie au pouvoir, quelque chose qu'on pourra reprendre la prochaine fois dans la science dominatrice. Mais là, pour finir sur les scientifiques soumis, Otmar von Verschuer, c'est un assez bon exemple, parce que c'est un spécialiste des jumeaux, et les jumeaux sont assez intéressants pour les généticiens, en particulier pour prouver le caractère héréditaire de certains traits, aussi bien des traits physiques que des maladies, que des traits de comportement, parce que les vrais jumeaux ont le même patrimoine génétique, donc toutes les différences entre deux vrais jumeaux sont dues à l'environnement. Tandis que des faux jumeaux ont un patrimoine génétique différent, ce qui fait que certaines des différences entre les faux jumeaux peuvent être dues à la génétique. Et du coup, quand on compare, quand on fait des statistiques sur les vrais jumeaux et les faux jumeaux, ce qui les différencie et ce pourquoi ils se ressemblent, on peut avoir des conclusions sur le caractère héréditaire de certains traits. Par exemple, si statistiquement des vrais jumeaux se ressemblent plus sur certains caractères que des faux jumeaux, alors c'est probablement quelque chose qui est génétique, parce qu'il n'y a pas d'autre raison que le fait qu'ils aient le même patrimoine génétique alors que les faux jumeaux ne l'ont pas. Il n'y a pas d'autres raisons pour lesquelles il devrait y avoir une plus grande ressemblance entre les vrais jumeaux. Donc ces plus grandes ressemblances statistiques entre les vrais jumeaux sont des indices pour penser que ce trait est héréditaire. Par exemple, pour une maladie génétique, si on fait des statistiques sur une maladie génétique et les porteurs qui sont jumeaux, vrais jumeaux et faux jumeaux, si on trouve plus souvent que quand un vrai jumeau est porteur, son jumeau est porteur aussi que si c'est des faux jumeaux, il y a probablement une composante génétique là-dedans. Alors c'est une technique qui marche toujours, et Otmar von Verschuer, c'était le grand spécialiste de ça, il faisait des observations à grande échelle sur les jumeaux pour trouver des traits héréditaires. Il avait aussi, il était médecin aussi, et il avait aussi inventé un nouveau type de médecin à l'époque qui s'appelait l'hérédologue. Alors on n'est pas les seuls à inventer des disciplines. Vous voyez, il y a Galton qui invente l'eugénisme, lui il invente l'hérédologue. Alors l'hérédologue, c'est le médecin de famille, mais qui se préoccupe pas seulement du bien-être de son patient ou de sa famille. Et qui se préoccupe aussi du bien-être de la race, de l'ethnie, de la nation, et qui peut, par exemple, déconseiller à un couple d'avoir des enfants s'il pense que c'est mauvais pour le patrimoine génétique d'un groupe plus grand. Et donc c'était un grand adepte de l'eugénisme qui l'encourageait. En Allemagne nazie, il y avait une autre application de la génétique et qui faisait travailler pas mal les généticiens, c'était les certificats raciaux. Parce que, ça vous êtes au courant, il y avait une idéologie qui disait que les races étaient inégales et que, du coup, il fallait donner un droit différent aux individus selon leur race. Et donc, il y avait, par exemple, différentes races en fonction de si la personne avait 3 ou 4 grands-parents juifs, ou 2 grands-parents juifs, là il était la moitié d'un juif, ou un seul grand-parent juif, là c'était un quart de juif, ou 0, et là c'était un vrai arien. Et les droits étaient différents. Les ariens avaient certains droits que les juifs n'avaient pas, et du coup c'était important de savoir qui était juif et qui ne l'était pas. Alors, je ne veux pas donner l'impression que je cautionne tout ça, hein. J'essaie d'expliquer. Évidemment, de nos jours, ça, c'est quelque chose de complètement impossible. Quand je dis que c'était important, les certificats ratios étaient nécessaires à l'établissement de ce droit-là. Et les certificats ratios, donc, se basaient sur la généalogie, mais c'est pas forcément facile, hein, d'établir ça sur la généalogie parce que les grands-parents sont pas forcément toujours connus. Il peut arriver que le père soit un père adoptif et soit pas vraiment le père biologique. Et dans ce cas-là, si la généalogie est difficile à établir pour les certificats, il faisait appel à des anthropologues d'abord et qui sur des caractéristiques physiques tentaient de détecter qui était juif et qui ne l'était pas. Et c'était devenu une vraie science de mesurer, ce qui est issu de la biométrie, de mesurer les caractéristiques physiques des gens, alors qui, de façon très complète et très précise, ça pouvait être des tailles de narines vues photographiées du bas, jusqu'à la forme des cheveux, je peux pas les citer toutes parce qu'il y avait plusieurs centaines de caractéristiques comme ça qui étaient mesurées chez les gens pour prédire l'appartenance à une race ou à une autre. Ça n'avait pas énormément d'efficacité. On se basait de temps en temps là-dessus, mais au-delà des caricatures qu'on connaît aussi du juif par les nazis, qui a un visage particulier, au-delà de ces caricatures-là, ils n'y arrivaient pas toujours. Et c'est pour ça qu'ils font appel à des généticiens, parce que finalement, tout ça, les caractéristiques physiques, c'est des caractéristiques qui viennent du sang, puisque ça vient de la généalogie, et c'est dans le sang qu'il faut aller essayer de trouver l'appartenance à la race. Et dans le sang, il y a le patrimoine héréditaire, ce qui est transmis d'une génération à l'autre, et c'est ça qui doit être le vrai marqueur de la race. Et c'est pour ça que ils ont fait appel à des généticiens pour établir des certificats ratios. Il y avait par exemple une expérience de quelqu'un inventée par quelqu'un qui s'appelait Abder Halden, qui était une expérience assez connue parce que il prétendait qu'il était capable, en prélevant du sang d'un individu, en l'injectant à un lapin, le lapin produisait ce qu'il appelait des enzymes de défense. Puisqu'il y avait du sang étranger qui entrait dans le lapin, il produisait des enzymes de défense pour dégrader les protéines qui étaient contenues dans le sang étranger. Et ces enzymes de défense étaient supposées être spécifiques, c'est-à-dire ces enzymes de défense ne sont pas les mêmes entre les individus, sauf entre deux vrais jumeaux, parce que eux, ils ont le même patrimoine génétique. Donc cette réaction était censée permettre, en fait ne le permettait pas parce que ça marchait pas du tout, mais était censée permettre de faire la différence entre deux individus au patrimoine génétique différent, faire la différence entre deux races aussi, si on injectait un lapin des protéines du sang qui venaient d'un individu d'une certaine race. Le lapin produisait des enzymes de défense qui étaient spécifiques de la race et du coup savait se défendre contre les injections du sang de cette race-là, mais si on lui injectait du sang d'une autre race, alors les mêmes enzymes de défense ne marchaient pas, il devait en produire d'autres et la réaction était différente. Et donc, avec des tests qui étaient censés marcher sur des molécules comme ça, qui étaient censés aller chercher la race au plus profond des jusqu'au gène, donc ce qui étaient les protéines à l'époque, de faire ces certificats ratios. Verschuer, qui était le spécialiste des jumeaux, et Abder Halden avaient forgé une collaboration. L'un le spécialiste des jumeaux, l'autre ce spécialiste de la réaction qui était censé faire la différence entre les patrimoines génétiques des individus et des groupes. pour tester cette réaction-là sur les jumeaux, justement. Parce que les jumeaux, c'était le test ultime de cette réaction-là. Si on injectait le sang de deux vrais jumeaux, la réaction devait être exactement la même sur le lapin. Si on injectait le sang de deux faux jumeaux, on devait voir une petite différence. Et si ça avait marché, on avait le test qui permettait vraiment de mesurer un patrimoine génétique. C'est ce qu'ils ont mis dans leur dossier de subvention. Ils en ont eu plein des subventions parce que les certificats, c'était important pour la politique. Malheureusement, on arrive dans les années 40. Je dis malheureusement encore, c'est malheureusement pour eux, hein. Moi, je reprends pas, mais leur thèse, voilà. Parce que j'entends Vincent rigoler, ça veut dire que j'introduis un petit peu d'ambiguïté dans mes propos. Je cautionne rien. Mais je raconte une histoire que je pense intéressante sur les relations entre la science et le pouvoir. Dans les années 40, c'est la guerre. Les recherches sont difficiles à l'époque, les recherches sur les jumeaux particulièrement, parce que pendant la guerre, les familles ont été assez souvent déplacées, assez souvent séparées. C'est difficile d'avoir une grande quantité de vrais jumeaux et de faux jumeaux pour faire ce genre d'expérience. Et il y a une correspondance qui s'établit entre Verschuer et Abdenhalden, et dans laquelle ils disent les temps sont durs, on a du mal à faire ces expériences-là et à aboutir dans notre projet de recherche. Et les choses semblent se résoudre en 1943, alors c'est toujours la guerre, mais là, Verschuer a trouvé une possibilité pour mener ses recherches, c'est d'envoyer un de ses assistants à Auschwitz, où il aura beaucoup de matériel pour faire ses recherches sur les jumeaux. Son assistant, il s'appelle Joseph Mengele, et celui-là, il est assez célèbre parce que c'est lui qui a été envoyé à Auschwitz. C'était un médecin qui, lui aussi, se destinait à une carrière universitaire dans la génétique. Il avait fait des études sur les jumeaux et sur des maladies héréditaires, qui étaient assez reconnues internationalement. Il avait écrit plusieurs articles, il faisait partie d'instituts, il participait à des conférences internationales, il collaborait avec Verschuer et il a été envoyé à Auschwitz pour faire avancer ce projet de collaboration entre Verschuer et Abdenhalden, parce que à Auschwitz, évidemment, on avait accès à un matériel humain en grande quantité. Il y a des millions de gens sur les prisonniers, hein, donc des millions de gens qui sont passés par Auschwitz. Parmi ces millions de gens, forcément, il y avait des familles avec des jumeaux, ça a été une des façons dont Mengele s'est servi pour régner à Auschwitz. Alors c'est Verschuer écrit par exemple à son financeur en 1944 pour justifier l'avancement des travaux. Mon assistant, le docteur Mengele, parce qu'il avait deux thèses, collabore à cette branche de la recherche. Il a été nommé en tant que Hauptsturmführer, je ne sais pas si on peut traduire ça, et médecin de camp au camp de concentration d'Auschwitz. Avec l'autorisation du Reichsführer, les recherches anthropologiques sont menées sur les groupes raciaux les plus divers de ce camp. Les échantillons de sang sont envoyés à mon laboratoire pour analyse. C'est-à-dire qu'il y a eu une circulation d'échantillons de sang des jumeaux de Schwitz vers les laboratoires. Et puis Mengele est tristement célèbre aussi parce qu'il s'est comporté à Auschwitz comme un fou sanguinaire en assassinant des milliers de personnes parce qu'il avait un poste de haut gradé et puis en pratiquant des tortures, des expérimentations sur les humains. Il avait des motivations scientifiques. On lui prête des propos, par exemple, qui disent que ce serait un péché, un crime irresponsable envers la science de ne pas utiliser les possibilités qu'Auschwitz offrait pour la recherche sur les jumeaux. Il n'y aura pas d'autre chance comme celle-là. Effectivement, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu d'autre. Pour conclure, finalement, ça n'a pas marché, ce programme de recherche, parce que la réaction de Abderhalden était basé sur des observations fausses ou frauduleuses. Et du coup, ils n'ont jamais réussi à faire marcher ces réactions avec les échantillons qui venaient d'Auschwitz. Par contre, c'est quelque chose qui a été amélioré dans la génétique ultérieure. Et on sait aujourd'hui faire ce qu'ils rêvaient de faire, c'est-à-dire lire le patrimoine génétique d'une personne et en déduire une bonne partie de sa généalogie et de ses appartenances à divers groupes. Alors heureusement, on n'emploie pas ces méthodes-là pour le faire, mais ces techniques se sont améliorées et sont assez opérationnelles de nos jours. Après, le nazisme, c'est des sciences qu'on regarde pas tout à fait de la même façon, forcément. Quand je dis que la génétique s'est améliorée là-dessus, ça fait peur à beaucoup, justement, parce que ces études-là ont cette histoire-là, et qu'il y a des relations pas toujours très heureuses entre les sciences et les politiques. Les scientifiques ont eu du mal, après la guerre, à abandonner l'idée de l'eugénisme. Dans les années 50, on a pu lire un scientifique français, par exemple, alors même que l'idée de l'eugénique avait reçu une approbation universelle, l'effet politique de ces excès allemands ont abouti à compromettre les recherches les plus légitimes. Ça veut dire que ce qu'avaient pratiqué les Allemands était considéré comme simplement des excès, mais que la science restait là. Il fallait séparer la science de ce qu'on en avait fait, et c'est une idée assez courante de la science, qu'il faut séparer ce qui est de la science de ce qui est de la politique, qu'il faut neutraliser, objectiviser les résultats scientifiques, la science s'occupe du vrai et du faux, tandis que la politique s'occupe d'autres choses. Toute cette histoire montre que cette séparation est quand même assez compliquée, parce que c'est un petit peu plus qu'une histoire de nazis ou sanguinaires, c'est quand même aussi une histoire de scientifiques. Après la guerre, d'ailleurs, ces scientifiques allemands... Alors, Mengele, lui, a été poursuivi... parce que c'est celui qui a le plus directement participé à ça à Auschwitz, et puis qu'il a assassiné un grand nombre de gens, ce qui n'était pas le cas de Verschuer, par exemple. Alors Mengele a dû s'enfuir, il a été en fuite pendant 34 ans en Amérique du Sud, et personne n'a jamais réussi à le rattraper. Il y a plusieurs médecins et scientifiques qui ont été inquiétés lors des procès de Nuremberg. Verschuer a été un petit peu interrogé, a dit qu'il n'était pas au courant de tout ça, pas au courant des activités de Mengele. Il a dit qu'il le connaissait d'ailleurs à peine, il a pris soin de brûler sa correspondance, ce qui rend cette histoire assez difficile à reconstituer d'ailleurs. Et finalement, Verschuer a eu une carrière scientifique tout à fait honorable en RSA par la suite. Voilà, et puis ce que je laisse au débat aussi, c'est... tout ce qu'on peut retenir de ça aujourd'hui avec les progrès scientifiques qui ont été faits jusqu'à maintenant, parce que, comme je l'ai dit, il y a des choses que les nazis ou les autres, c'est pas simplement une histoire de nazis, essayaient de faire à l'époque et qui sont encore possibles aujourd'hui. Par exemple, repérer des anomalies génétiques dans le génome, ça, les généticiens savent faire ça. Retracer une histoire familiale et une histoire d'une population en la lisant dans le génome, on sait faire ça aussi. Alors c'est des choses qui sont tout à fait passionnantes et qui font un petit peu peur, parce que on se demande si l'application de ça, c'est pas le retour de l'eugénisme et du racisme. On peut discuter de ça maintenant.